Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je tiens tout de suite à me désolidariser de cette phrase. Le buffet à volonté, c'est pas du tout mon truc.
D'accord.
Je préfère un bon chinois, un bon Jap, mais pas de buffet à volonté.
L'assiette gâchée à 5 euros,
voilà,
un 5 euros de supplément.
Ça, ouais,
ça j'ai un gros problème. C'est buffet à volonté ou c'est pas buffet à volonté? Je vais pas payer 5 euros si j'ai envie.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous. Et oui, c'est Génération After, comme tous les soirs sur RMC, de 20h à 22h. Très heureux de vous retrouver. Bonjour à toi qui nous écoute en podcast et nous regarde sur After Food TV avec ce soir le duo de l'été, toujours. Kevin Diaz est là ce soir. Salut KD.
Salut à tous.
Walid Acharchour est dans la place. Salut Walid.
Salut Nico, salut à tous.
Les gars.
Ça va très bien.
On a digéré le petit kebab d'après Génération After d'hier.
Ouais, non, moi j'ai pas mangé de kebab. Moi.
C'est fait.
Ah
oui,
d'accord. Ah non, moi j'ai une petite poké hier en rentrant.
Ouais.
Ouais. Je mange tout le soir, moi. Moi
j'en fais
le salade
César.
Moi, c'est
salade César,
sans
salade grecque,
ouais,
sans sauce.
Salade après grecque. 19h, je
mange plus. La César, c'est meilleur que la grecque, hein, je l'ai pas dit.
Pas du tout, mais
déjà la salade César,
très bonne salade dressing, César, c'est
ce dressing horrible là. Sans... Ah non, moi je
salade César croton, c'est bien meilleur qu'une salade grecque, je suis
d'accord. Une César à volonté.
Non, mais attends, tu mets la sauce blanche là. Cette sauce blanche qui est infâme.
Je sais pas pourquoi j'ai pris ça hier soir.
C'est dur.
Mais elle est infâme cette sauce.
Elle est excellente.
Elle sert à rien la sauce blanche, c'est comme la salade grecque.
Non,
elle a pas de goût la sauce blanche.
César, c'est
ce que disent en mettent trop et tout.
Génération After au programme ce soir à partir de 21h. Dans une heure, donc, on parlera de Marseille, Ceballos qui ne vient pas finalement, le joueur était hésitant, on a tranché, c'est le leitmotiv de Mehdi Benatia notamment, si un joueur n'est pas motivé à 100%, on passe à autre chose. La liste de Deschamps également pour les qualifs, pour l'Ukraine et la Pologne, et l'Islande, pardon, Akliou appelé pour la première fois, comment peut-il s'insérer dans le système Didier Deschamps. Mais dès 20h, dans quelques secondes, notre invité exceptionnel sur RMC dans Génération After, il a joué 560 matchs en pro, 41 sélections en équipe de France, Arsenal, Manchester City, CVFC, Marseille, évidemment. Samir Nasri est avec nous dans Génération After. Salut Samir.
Salut, salut, salut à tous.
On est très
salut
heureux Samir. De t'accueillir sur RMC ce soir. Je crois que tu connais un peu des gars autour de la table.
Un petit peu. Hein. Un petit peu. Oui.
Deux joueurs corrects au paddle. Juste corrects. Ils sont timides. Timides, les gars, ou quoi?
Non, pas timides. C'est vrai qu'on l'a un peu initié au paddle sur la dernière année et il progresse de jour en jour. Ça commence à devenir un peu dur.
Il a dépassé le maître ou pas?
Ouais, là il est arrivé à maturité. Mais bon, c'était la suite logique. C'est la suite logique.
Moi, la première rencontre avec Samir, c'est quand il est venu débaucher un joueur de mon équipe.
Ah oui, c'est pour rappeler l'anecdote.
Ça, on va la garder parce que j'étais sur le cours aussi. Et moi, j'ai un peu vénère contre toi et Samir parce qu'on jouait. En plus, je faisais un super match.
Une pression psychologique.
Et il faut raconter le contexte. On rencontre après.
Vas-y,
on s'est pas,
après.
Mais on s'est pas trompé quand même.
C'est vraiment pas trompé.
Ouais,
c'est pas mal.
Effectivement. Alors ce soir, on a une heure un peu plus et des poussières avec toi, Samir, car on
va jusqu'à minuit là. Il a pas compris.
Évoquer ce documentaire qui est consacré à ta vie, ta carrière de Septem Les Vallons au titre en Première Ligue. On le verra dimanche soir sur Canal+ à 21h. Où tu es consultant, bien sûr. On va refaire ta carrière, parler un peu de l'OM, du PSG, de Ballon d'Or aussi, peut-être si on a le temps, de la liste de Deschamps également. On est heureux de t'avoir ce soir avec nous. Et puis ensuite, on passera la main, bien sûr, à Gilbert Bribois pour l'after. Bonsoir, Gilbert.
Salut, les gars.
Salut, Gilbert.
Walid, il tremble un peu parce que c'est ton idole, quand même.
Ouais, oui, c'est mon joueur préféré. Mais bon, c'est bon, je suis passé.
Attends, qu'est-ce qui nous a bassiné avec Samir Nasri pendant des années
avant de le connaître? C'est vraiment ton joueur préféré?
Oui,
ou pas
mon joueur préféré. Ah, ouais.
Au-dessus de Zizou?
Bah, Zizou, en fait, moi, j'aime bien avoir un joueur préféré. Pas
générationnel.
Goat, non, mais pas GOAT. C'est-à-dire pas les très, 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 très forts.
D'accord. Ah, tu dis qu'il est pas très très
si, très 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 fort, mais pour moi,
l'échappe deux,
mais pour moi, joueur préféré Messi, Ronaldo, Zidane,
oui, c'est pas, c'est pas du, c'est pas du jeu. Moi,
mon vrai joueur préféré, le joueur que j'aime, etc., c'était Samir Nasri. Et au passage, il y a une vraie histoire avec, moi, je l'ai déjà raconté, mais avec l'after, parce que j'appelle la première fois pour défendre Samir Nasri après un France-Ukraine.
Ah, t'as fait le 32-16?
Ah oui,
je savais pas.
Je m'étais embrouillé avec Daniel.
D'accord.
Déjà. Ça, c'est impossible.
Déjà.
Il sera là tout à l'heure.
À 22h.
Avec Florent Gautreau, avec Jean-Louis Tour. On va parler de le mercato, bien sûr. Les dernières infos, notamment à Marseille. La liste de Deschamps. Qu'est-ce qu'on a encore au programme? De Zerbi, parce qu'en fait, De Zerbi, il a un peu la pression, mine de rien, maintenant. Donc, on va voir ce qu'on dit l'after. Tout à l'heure, il va falloir qu'il ait des résultats. Et puis, dans le cadre de nos 20 ans, on lance une grande série sur les matchs qui ont marqué l'after. Ce soir, on va parler de PSG Bucarest.
PSG Bucarest.
Oui, tu étais tout petit. Mais
quelle année?
Déjà vieux.
Quelle année?
Je sais plus.
D'accord. Tu n'as pas encore travaillé le match, Gilbert?
Pas encore.
Il a deux heures.
Donc voilà, ce sera tout à l'heure. On aura d'ailleurs Jimmy Algerino qui était sur le terrain.
D'accord, le grand Jimmy.
Voilà.
Voilà.
C'est tout, je vous laisse.
Enfin, 97, t'avais 4 ans.
97.
97, j'avais 3 ans.
3 ans, t'as 93.
Ouais, 93.
C'est ça.
Si je suis encore compté.
Merci Gilbert.
À tout à l'heure.
De 22h, je vous rappelle qu'on est également sur la chaîne YouTube de l'After. Vous êtes de 205, 75 000 abonnés. Le chat est ouvert. Vos messages qui apparaissent dans le mur. Alors, tu vois les messages derrière moi, Samir. T'as quoi? T'as Wawa PSG qui dit je suis parisien, mais je t'aime, Samir. Ça, c'est fort.
C'est gentil, ça, c'est merci.
Il y a aussi Benjedo qui m'appelle Nicolas Germain. Alors, je m'appelle Nicolas Jamin. J'avais un poster de Samir dans ma chambre. Et t'as Sylvain qui dit Petit Prince. Voilà, on est heureux de t'avoir avec nous ce soir. Samir, c'est parti. Donc pour ce documentaire d'1h30, hein, réalisé par l'excellent Marc Sauvourel, Samir Nasri Rebelle, c'est le nom de ce documentaire. Marc a attendu le micro à Cesc Fabregas, ancien coéquipier, Arsène Wenger, ancien coach, Patrick Vieira, Djibril Cissé, Jérémy Ménez, Mamadou Niang, tes frères, sœurs, ta mère, ton père. Ton très grand ami aussi, il est important dans le documentaire Mehdi Benassia, que certains vont découvrir encore un peu plus dans ce documentaire parce que tu en parles. C'est un très proche, Mehdi, pour toi. L'histoire remonte à plus de 20 ans désormais. On a eu la chance de le voir, hein, tous les trois, Kevin, Walid et moi, avant la diffusion dimanche soir sur Canal. Déjà, te dire qu'on l'a tous beaucoup aimé, on peut le dire. On est d'accord.
Bien sûr.
C'est très bien réalisé. C'est sans concession également. Parce que ça ravive des grands souvenirs qu'on a, nous aussi, en tête, hein. C'est un peu notre génération. Le football début 2000, 2010. Tout à fait. Tes débuts à Marseille. On va en parler. Le succès, les victoires. Ce que j'ai aimé aussi, c'est, ça raconte aussi, ce qu'il y a de bien dans le foot et ce qu'il y a de pas bien. Voilà. Ouais. C'est ça l'objet du documentaire. La pression énorme, l'attente autour de toi, à Marseille qui plus est. Et puis, les polémiques dont tu es parfois responsable, on va en parler aussi. Les médias aussi qui se sont jetés sur toi parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un à ce moment-là. Tout ça, on va l'évoquer, on va tout balayer ensemble. D'abord, une question, Samir, que j'ai pas dans le documentaire. Tu parles de grands moments, on parlera de City, notamment ton titre en 2012. Est-ce que tu as vraiment kiffé ta carrière? Vraiment?
Ouais, vraiment, j'ai kiffé. Ouais. J'ai kiffé parce que pour moi, le foot, ça représente un petit peu tout dans ma vie. C'est ma passion et j'ai réussi à en faire mon métier. En plus, réussir dans le club de ma ville, Marseille, comme je le dis au début du documentaire, quand tu nais à Marseille, ça te suit tout le long de ta vie. Et de réussir de jouer au Vélodrome, déjà, pour moi, ça a été une réussite. En dehors de mes expériences à l'étranger, après à l'étranger, quand tu gagnes des trophées, bien sûr, ça valide le fait que tu as fait le bon choix. Mais ouais, j'ai kiffé, franchement, j'ai kiffé ma carrière.
T'es nostalgique ou t'es vraiment passé à autre chose désormais, quoi?
Non, passé à autre chose complètement. Le jour où j'ai décidé d'arrêter, je suis vraiment passé à autre chose. Il faut savoir aussi dire stop au bon moment, ne pas continuer à persévérer pour rien. Et puis le choix d'avoir arrêté aussi, c'était un choix qui a été dicté un petit peu pour raisons familiales et de santé. Donc, ouais, j'ai pas eu de regrets là-dessus.
Bon, on va parler aussi de ton rôle de consultant que tu découvres depuis 3-4 ans maintenant, pas de canal, et qui a aussi restauré ton image auprès de certains.
Oui.
Façon du Gary, oui. Comme Christophe l'avait vécu en rejoignant Canal à l'époque. Alors le doc, il commence très fort, très efficace, Marc Sauvourel dans le montage. Tu dis dès le début, j'ai entendu pendant ma carrière que j'étais le nouveau Zidane, le nouveau génie du foot français, mais aussi une Kaira, un petit con, le bad boy, un animal nocturne, toutes les rumeurs possibles. Et là, il te demande, qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Et tu réponds honnêtement, et c'est pour ça qu'on te kiffe aussi, un peu tout.
Ouais, c'est vrai, un peu tout. Un peu tout, je pense que, bon, jamais de fumée sans feu. Donc, il y a eu pas mal de rumeurs, mais la plupart ont tout été un petit peu vrai, quoi.
Un peu vrai, parfois un peu exagéré peut-être, aussi. En tout cas. Tu incarnes aussi la génération 87, ça c'est au cœur du documentaire, dont on a beaucoup parlé ici même dans l'after, avec Jérémy Ménez, Karim Benzema, Atem Ben Arfa, la première génération avec des codes différents, qui passait pas auprès de certains anciens dans le vestiaire, notamment, auprès des médias généralistes aussi, qui avaient du mal à comprendre votre façon d'aborder le foot. C'était quoi par exemple? C'était le casque vissé sur les oreilles, la musique, des codes vestimentaires également?
Oui, c'est un peu tout. On va dire, on est la génération hip-hop en fait. On a grandi avec cette culture. Nicolas Anelka, c'est le premier joueur vraiment issu des banlieues à représenter autant les banlieues. Nous, on est tous de différents horizons. Atem et Jérémy sont de la région parisienne. Karim, il est de la région lyonnaise et moi de Marseille, mais on a tous grandi un petit peu dans le même environnement. Donc, on a eu ce truc-là et quand on est arrivé en pro, on n'avait pas forcément les codes des anciens de tout ce qu'il y avait à l'époque. On était là, en fait, pour prendre notre place et pour s'installer. Alors, peut-être qu'on n'avait pas forcément les codes, mais quand je vois les générations d'aujourd'hui, Ils ont le même comportement que nous, mais aujourd'hui, ça ne dérange plus, en fait. Parce
exactement.
On a été les premiers à l'avoir fait et ça a dérangé. Et après, finalement, tout le monde s'est adapté et ça a évolué un petit peu avec la culture d'aujourd'hui.
Kevin.
Écoute, moi déjà, bravo pour le documentaire parce que moi, ce que j'aime dans ce genre de format, c'est souvent les Américains font ça, que ce soit dans des inside avec des clubs ou pour retracer la carrière d'un entraîneur ou d'un joueur. C'est qu'en fait, j'ai redécouvert toute ta carrière.
Ouais.
Et ça, c'est top. Parce qu'il y avait plein de choses que j'avais oubliées, je me rappelais plus que t'avais commencé si jeune, et puis ensuite que t'avais choisi de partir d'Arsenal, alors que t'avais Manchester United et que City c'était le tout début du projet. Et que...
Il y avait le PSG aussi, on en parlera. Hein.
Oui, ouais. Mais bon, ça, le PSG, ça reste anecdotique. mais ce qui est vraiment très bien, c'est que même les plus jeunes ou les moins jeunes. En fait, on va tout redécouvrir. Ouais. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai aimé. À la base, je voulais faire que la moitié hier soir, la moitié cet après-midi, mais j'ai tout regardé hier soir parce que ça suit un peu comme une série. Il y a plusieurs étapes comme ça. Et je donnais une anecdote. Moi, j'étais persuadé que t'étais un Einstein. Et tu le dis dans le documentaire, tu vois. Et c'est des biais cognitifs.
Vraiment,
que...
t'étais persuadé de ça.
Enfin, persuadé, j'aurais pas mis ma main à couper, mais je pensais qu'il y était, tu vois, pour moi, dans ma tête, il y est.
Comme pour beaucoup de Français.
Et en fait, les problèmes que t'as eu, c'était après Naïsna, tu vois, mais
on
te rappelle pas, il y a des milliers de joueurs qui passent bien en sûr. Équipe de France, on se rappelle pas de toutes les histoires de qui, par exemple, un truc tout bête, il y en a qui pensent que Thiago Silva, il a joué le 8-1 avec le Brésil, ouais. Le 7-1, ouais. Alors qu'il a pas joué, ouais. Tu vois, donc des fois, il y a
c'est
des choses.
C'est un inconscient qui joue.
Voilà, c'est ce que je te dis, c'est
le cas associé à Franck Ribéry,
que Lewandowski était au Bayern contre Dortmund lors de la finale Bayern Dortmund alors qu'il était à Dortmund.
Mais c'est des biais cognitifs.
Il y a des trucs comme ça dans l'inconscient des gens.
Et en fait, Fabregas le dit aussi, quand on te met une étiquette dans le foot, mais il n'y a pas que dans le foot, dans la
oui,
vie aussi,
dans la vie en général.
C'est très très difficile de s'en décoller. Et moi, ce que j'aime dans le documentaire, on pourra en reparler après, c'est aussi ce chassé-croisé entre les gens du foot et ta famille proche.
Ouais.
C'est-à-dire ta maman, tes frères et sœurs. Et à un moment, elle parle de l'éducation, et on voit très bien que tes frères et sœurs et leur éducation, elle est irréprochable, la façon dont ils s'expriment, la façon dont ils ont le recul sur les événements et tout. Et toi aussi, finalement, on découvre ce côté attachant, et bon, moi, je te connais pas bien, mais même pour avoir croisé un peu Jérémy Ménez, ou d'avoir eu des échos même d'Atem Ben Arfa.
Bien sûr.
Tout, sur vous quatre, c'est les mêmes échos. Oh, quand tu le connais dans la vraie vie, c'est pas du tout le même. Et moi, je pense que, pour finir, on y reviendra, mais ce documentaire-là ou ce genre de documentaire, faut le passer dans les centres de formation. Parce qu'il faut que les gars, ils comprennent que, ouais, les embûches, c'est pas que les anciens qui leur disent, attention à ci, attention ouais. À ça, les médias, le média training. Eux, ils se disent, ouais, c'est bon, on a compris. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, tu comprends pas tant que tu l'as pas vécu, je pense.
C'est clair.
Tu disais tout à l'heure, on est une nouvelle génération avec des nouveaux codes et notamment une grande confiance en soi. On en parle souvent, les jeunes désormais. Bon, Kylian Mbappé est un peu l'archétype désormais, le sommet de tout ça. Me parlez pas d'âge, c'est pas une question d'âge quand on est prêt à jouer, à débuter. Toi, tu dis dans le documentaire, on est venu pour tout prendre. C'est ça que tu disais, tout prendre avec la confiance, se dire, c'est parce que j'ai 17 ans ou 22 ans en équipe de France que je dois m'incliner devant un Pat Vieira ou un Lilian Thuram.
Non, il y a le respect. Il y a le respect parce qu'on respecte la carrière, ce qu'ils ont fait. Mais si je suis arrivé dans cette équipe-là et je suis avec toi dans la vie de tous les jours ou dans un groupe, ben on est là pour prendre la place. On n'est pas là pour faire des politesses ou être un petit peu trop respectueux en termes footballistiques. Moi, j'étais là. Ok, je suis arrivé là. La vérité, moi, quand je viens d'un milieu très très modeste, donc j'avais les crocs. Moi, je voulais sortir mes parents, mes frères, ma sœur de la vie du quartier. Je voulais leur acheter une maison. Je voulais réussir. Et comme je l'ai dit, quand je suis arrivé au tout début, non, c'est ma chance, c'est à moi de la saisir, et donc je vais tout faire pour.
Et ça a été mal perçu, parce que il y a notamment dans Intérieur Sport la phrase de Kylian Mbappé, tu me parles pas d'âge. Il y avait aussi l'anecdote de Karim Benzema qui, dans le vestiaire de l'Olympique Lyonnais à l'époque, en rigolant, avait dit non mais de toute façon moi rigoler sur mon bizutage, mais moi je vais vous prendre je vais prendre votre place. Est-ce qu'à l'époque il n'y avait pas un décalage immense entre votre génération et l'ancienne, et qu'il y avait des choses à pas faire? Est-ce que
pour
ça...
les anciens se faire respecter, c'est
ça,
avoir que les jeunes s'inclinent devant eux?
Exactement.
En réalité,
est-ce que c'était ça, c'était pas ouais, ça les règles,
moi,
du, les règles du jeu à l'époque?
Pour moi non.
Et toujours pas aujourd'hui dans ton esprit?
Non, pour moi non. J'étais, on va dire, cet ancien. Lorsque j'avais fait mon passage à Anderlecht, où Vincent Kompany m'avait appelé pour que je vienne jouer à Anderlecht et que je l'aide aussi en étant dans le staff. Il m'avait demandé, ouais, tu te mets dans le vestiaire avec nous, les coachs. Je lui avais dit non, si je suis encore joueur, je me mets dans le vestiaire avec les joueurs. J'ai pas envie de leur envoyer un signal un petit peu bizarre aux joueurs. Et les jeunes qui étaient là, il y avait Jérémy Doku, il y avait Alexis Alemakers, qui aujourd'hui joue les deux dans des grands clubs. Mais j'étais à fond avec eux dans la mentalité qu'ils avaient. Ils étaient là, ils acceptaient pas, ils étaient pas contents quand ils étaient sur le banc parce qu'ils sont sûrs de leur qualité. Et aujourd'hui, dans le monde du foot, c'est difficile quand on voit les réseaux sociaux, les messages qu'ils peuvent avoir. Ces jeunes-là, ça peut les toucher. Moi, je suis content de voir quelqu'un qui est sûr de lui et qui a envie de s'imposer. Au contraire, je ne le prendrai pas comme un manque de respect si le jeune, il pense qu'il est meilleur que moi à ce moment-là.
T'étais venu pour tout prendre, y compris la place de Thierry Henry dans le bus. C'est un moment fort du documentaire aussi, on ne va pas tout dévoiler. Je rappelle l'épisode en tout cas, équipe de France bien sûr, tu montes dans le bus avant lui, tu t'installes à sa place. William Gallas, qui n'était pas ton pote, hein, c'est moins qu'on puisse dire, à ce moment-là, s'agite, Henry arrive, il te demande de te lever, tu restes plusieurs secondes assis, le casque sur les oreilles en lui disant que son nom n'est pas écrit sur le siège. Avant finalement de lui céder sa place. Tu savais que c'était la sienne ? C'était une provoque ou non, là, une volonté de s'imposer là ou non, c'était une maladresse ? Non,
honnêtement, je savais pas du tout que c'était sa place parce que si on voit un peu l'historique sur les 3 ou 4 premières sélections, Thierry Henry était pas là, il avait une blessure au dos et c'était sa dernière année à Arsenal. Et donc je me mettais toujours à cette place et ce jour-là, il fait son retour en sélection, donc je me mets à cette place-là et derrière. Dans les groupes, c'est toujours comme ça. Quand il y a un jeune, on essaye de le titiller pour voir comment il va réagir. Tout le monde dit derrière, il y avait Willy Sagnol, il y avait William Gallas et Patrick Vieira. Et les trois, ils disent « Bon, on a fait un pari pour voir si tu vas te lever, parce que c'est la place de Thierry Henry. » Et Patrick, il fait ça pour me chauffer, Patrick. À ce moment-là, il me dit « Moi, j'ai parié que tu n'allais pas te lever. » Et là, j'ai 19 ans et il m'en faut pas plus pour me chauffer un petit peu. Donc, je mets mon casque, c'était à l'époque, de l'iPod. Et je mets pas de musique exprès, et je suis assis comme ça, et quand il vient Thierry, en fait, c'est sa première remarque, et qui dit, les jeunes, ils savent pas, c'est la place de qui. Et moi, je fais semblant, je l'entends. Et il me tape comme ça dans l'épaule, il me dit, lève-toi. Et en fait, c'est sa façon dont il me l'a dit, j'ai fait semblant de dire, il y a pas ton nom, donc je me lève pas. Et là, j'ai vraiment mis la musique juste après. Et après, il m'a retapé dessus, j'ai enlevé le casque. Et là, il m'a expliqué, il m'a dit, je suis superstitieux, c'est ma place, je suis là, ça fait 10 ans, tout ça et tout. Je me suis levé, je lui ai laissé la place. Donc pour moi, il n'y avait pas lieu de l'écrire dans un livre et de dire que...
C'est William Gallas qui l'a fait.
Et de dire qu'en gros, les problèmes générationnels, c'est pas un problème générationnel. À la rigueur, si on se tape dessus, que tu le mets dans un livre, non, mais... je veux bien. Et surtout que... Mais... La personne qui était là juste avant nous avait fait un livre.
Jérôme.
Et j'étais bien placé pour le savoir à Arsenal. William Gallas l'avait mal pris parce qu'il le nomme dedans. Et il avait très mal pris. Il disait, ouais, moi je comprends pas pourquoi dans un livre on nomme des anciens joueurs, faut pas faire des trucs comme ça. Et lui, 6 mois après, il me fait la même chose. Donc j'étais très mal pris et c'est de là que.
Parce que les livres sont faits pour être vendus et parfois aussi les éditeurs disent, il faut des exemples, il faut de la polémique.
Ce qui est fou, c'est qu'encore une fois, deuxième chose que j'ai appris hier, c'est que tu t'as fini par lui laisser sa place.
Mais oui.
Alors, on savait pas ça.
Je pense qu'il y a 99% des gens qui suivent le foot qui pensent que tu l'as jamais laissé sa place.
Non, donc
90% des gens disaient, Samir Nasri, petit con, il fait ça à Thierry Henry, la légende.
Mais moi, je te le dis, je l'ai déjà dit ça. Pas forcément petit con, je me serais pas permis. Mais j'ai déjà dit, non, mais attends quand même, il avait pas laissé la place à Thierry Henry, tu vois. Alors qu'en fait, tu l'as laissé. Donc c'est pour ça qu'il est important ce documentaire. T'aurais même pu le faire, je sais pas, à la fin de ta carrière ou avant. Parce qu'en fait, ça rétablit des vérités. Et je reviens sur ce que tu disais sur le fait, moi les nouvelles générations, je les ai connues, moi je suis 83, je les ai connues dans des vestiaires, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient amateurs, peu importe. Moi c'est pas ce qui me gêne parce qu'au final ça se finit toujours bien, ouais. Tu vois. Mais tu parlais de code, il y a le code et il y a l'éducation. Toi l'éducation tu l'as, d'ailleurs c'est un truc qui a piqué ta maman, qu'on dise que t'étais pas éduqué ou t'étais mal éduqué, etc. Et c'est normal, toutes les mamans qui sont occupées de leurs enfants auraient réagi pareil, mais... Le souci, c'est pas forcément que de l'éducation, en fait. C'est un petit peu d'éducation, un contexte, un peu de fierté, un moment où là, tu racontes que c'est Patrick Vieira qui te chauffe. Et du coup, ça reste pendant, si t'avais pas fait ce documentaire, peut-être toute notre vie, on aurait cru que t'avais pas laissé la place, tu vois. Et c'est ces petites choses qui font que, encore une fois, je reviens au fait que, et tu le dis dans le documentaire, et tes frères aussi le disent, on se rend pas compte de ce que t'as vécu. Et moi, je pense que oui.
Est-ce que eux aussi ont vécu d'ailleurs?
D'être né à Marseille, de percer à Marseille. T'es un des seuls qui a percé à Marseille. C'est fou.
Tu vas trop vite, Kevin.
C'est que on parle du départ et pour les jeunes générations, ce qu'ils vivent, les réseaux sociaux, l'exposition. Et on en parlait hier sur les jeunes joueurs, parce que toi, t'as été quand même exposé très jeune. Tu disais que je sais pas 6 mois après, mais ça, tu vas le dire. Mais franchement, ça doit être compliqué.
Kevin, il veut tout spoil. Non, c'est intéressant. Moi, ce qui est flippé dans l'anecdote, c'est que Thierry Henry n'a pas pété un plomb en fait.
Non.
Il est resté très calme, lui.
Non, il est resté
D'autres auraient pété un plomb, mais lui, il est resté La vérité, il t'a expliqué quoi.
Il est resté très calme, il m'a expliqué, je me suis levé, il m'a même invité à s'asseoir à côté de lui, il avait son classe. Ordinateur de l'époque, il a même sorti un truc pour mettre double écouteur dessus, il m'a dit viens on regarde une série ensemble.
Mais voilà.
Et moi à l'époque, je lui dis mais c'est quoi comme série, c'est en quoi? Il me dit c'est en VO. Ouais, mais moi je parle pas anglais, j'étais encore à Marseille. J'ai dit, non, laisse tomber, j'ai mis mon iPod et j'ai écouté ma musique. Mais voilà, c'était surtout ça, c'est super bien terminé, on s'est revu avec Thierry, on s'est pris dans les bras, on discute. Il y avait vraiment pas lieu d'en faire toute une histoire.
Mais avec le recul, Samir, quand on regarde le documentaire, en fait, c'est le point de départ de ta carrière en équipe de France. Au final, parce que derrière, tu fais pas 2010 parce que, enfin, c'est comme ça qu'on le comprend dans le documentaire. Bah, les cadres, on sait que les cadres sont très importants et que.
Un cadre
qui était important. J'ai l'impression qu'entre toi et William Gallas, bah, que Raymond Domenech a choisi William Gallas.
Et c'est normal.
Que derrière en 2012, déjà tu reviens, mais t'as un peu derrière toi cet épisode en disant bon, faut pas qu'il se loupe. Qu'en 2012 ça se passe aussi un peu mal, et qu'après derrière Deschamps, j'ai l'impression qu'en fait ce passage-là est quand même le passage qui détermine tout au final, ou pas?
Non. Je pense qu'il y a certaines choses après qui ont fait que, tu vois, même il y a certaines performances qui n'ont pas été à la hauteur, donc forcément tu deviens pas légitime d'une certaine manière. 2012, moi jusqu'en 2012 avec Laurent Blanc ça se passe bien. On oublie peut-être, mais la qualification à l'Euro, c'est moi qui mets le pénalty décisif contre la Bosnie avec Laurent Blanc, ça se passait super bien. Après, j'ai une réaction d'humeur parce que j'avais des comptes à régler avec les journalistes de l'équipe qui, depuis moi, c'est pas simplement les matchs de préparation, mais même avant ça, mon départ d'Arsenal à Manchester City, j'ai aussi mal pris que certains consultants qui étaient des joueurs de foot qui avaient fait des choix, eux, dictés par l'argent, m'ont traité de mercenaire parce que j'avais quitté Arsenal. Donc, il y avait aussi une accumulation de beaucoup de choses. Il y a eu ma maladie aussi qui a fait, qui m'a changé aussi sur le monde du football. Donc non, il y a plusieurs trucs. Et Didier Deschamps, la relation pour moi avec lui, elle avait mal débuté parce qu'à l'Euro 2012, il n'était pas encore sélectionneur. On savait qu'il allait prendre l'équipe après l'Euro 2012. Et il m'a appelé à moi personnellement pour discuter des futurs plans et compagnie. Et après la suspension, il n'a pas tenu toutes les promesses qu'il a eues envers moi au téléphone. Donc c'est pour ça que, et moi je suis quelqu'un, je me ferme de suite. En fait, si je m'aperçois que la personne est hypocrite ou elle est pas franche comme moi, j'ai un peu de mal avec le rapport humain de temps en temps.
Donc 2012.
On va faire l'équipe de France tout à l'heure, dans le détail notamment. Dans un instant, on va commencer par Marseille aussi. Tes débuts en bas de l'immeuble, tu jouais quasiment tous les soirs, même si ta mère voulait que tu sois médecin ou avocat. T'as choisi footballeur professionnel. On va raconter ça. Arsenal, City, Fabregas, Wenger. De tout ça, on va parler. On a du temps avec toi, Samir Nasri, notre invité exceptionnel dans Génération After sur RMC, 20h23. À tout de suite.
RMC. 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Kevin Diaz, Walid Acharchour, Génération After, on est ensemble jusqu'à 22h. Notre invité ce soir, Samir Nasri, qu'on est heureux d'avoir avec nous pendant au moins une heure. On va parler de Marseille après avoir parlé de ta carrière de manière générale pour l'instant. L'OM, 4 saisons chez les pros, mais d'abord le ballon en bas de l'immeuble, bien sûr. Tu joues au foot tous les soirs, en bas de chez toi, à Septèmes-les-Vallons. Ta mère te répète qu'elle veut que tu sois médecin, je l'ai dit. Toi, tu penses qu'au foot. Et tu dis que les meilleurs souvenirs, c'était là, à cette époque.
Ouais.
Ça c'est sincère, parce que la plupart des joueurs nous disent ça. C'est les premiers ballons avec les potes dans la rue ou sur un terrain.
Quand même Agüero 98e quand même.
Ouais, mais
attends, on en parlera après.
Mais je te jure, c'est pas pareil. En fait, c'est l'insouciance quand tu grandis dans un quartier, c'est le partage, c'est ces moments, c'est ces souvenirs en fait, parce que quand ça devient ton métier avec l'accumulation de la pression médiatique, de l'engouement des gens en fait, toi t'es pas préparé à ça. Toi, t'as juste envie de prendre un ballon, d'aller taper avec tes potes et de t'amuser.
En toute insouciance.
Eh oui, donc
finir ses devoirs et le bonheur quand tu dévales les escaliers et que tu vas jouer avec tes potes.
Tu sais que là, pendant 2 heures, c'est ta Ligue des Champions, c'est ta Coupe du Monde tout, avec tes potes. Tout. C'est excellent.
Bon, comment ça s'est passé? Qui t'a repéré d'abord?
J'ai commencé dans le club de mon quartier. J'ai fait 2 ans. Après, je suis parti dans un club juste à côté, au Pen Mirabeau. J'ai fait une saison et j'avais un entraîneur que son fils y jouait dans les catégories de jeunes à l'Olympique de Marseille et qui avait parlé avec le recruteur Freddy Assolen en lui disant voilà, j'ai un petit, il faut que tu viennes le voir. Et il est venu me voir et il est venu. Il a proposé à mes parents que j'aille faire un tournoi d'abord à Florence. avec la génération 85. Je suis parti faire ce tournoi là-bas.
Toi, t'es 87, hein, je pense.
Ouais, j'avais fait ce tournoi, ça s'était super bien passé. En plus, moi, avec des yeux comme ça, parce qu'on a joué la Juve, l'Ajax et tout. Et je termine meilleur joueur du tournoi, on rentre à la maison, et après, l'OM vient pour me faire signer, en fait.
Ce qui est dingue dans le documentaire, c'est que donc... Le fameux recruteur vient avec un maillot de Laurent Blanc.
Ouais, c'est génial.
C'est dingue.
Mais moi, je croyais que c'était Laurent Blanc.
Ouais, non, mais ça, mais le Laurent Blanc, en fait, t'as la caricature totale, ça, en fait.
Totalement.
T'as l'impression d'être dans 3-0 quand ouais, il te dit, c'est ce stylo, Lilian Thuram a signé avec.
Ouais. Mais attends, c'est, d'ailleurs, la force du docu, on l'a pas dit, mais il y a des images d'archives.
Ah, ouais, j'ai jamais vu sur un doc film et voleur.
C'est qui filme quand il vient chez toi?
Stéphane Meunier.
Ah oui, d'accord.
C'est celui qui
a fait aussi à la Clairefontaine.
Les yeux dans les bleus.
Les yeux dans les bleus.
Mais il a fait aussi à la Clairefontaine.
Oui. Ah ben en fait, ouais. Stéphane Meunier, après les yeux dans les bleus, il est descendu à Marseille. Il a fait un reportage qui s'appelle Tellement Marseille. C'est sur c'est un groupe de street dance à Marseille et sur une équipe. Et c'était mon équipe en fait. Et il avait choisi trois joueurs. Il avait choisi un jeune qui s'appelle Renaud à l'époque. Il avait choisi Ahmed Yaoui et moi-même. Et il a des images, mais
incroyable. Non, encore, on voit qu'il y a un. Tu sais que je regardais les images, je me disais, mais elles sont dingues les images, tu sais, c'est bien filmé. Ouais. Et, mais ça m'a
pas dit que
le gars, c'est un monstre.
Les images quand il marche pour aller chez lui, etc., au début du documentaire.
C'est fou, on dirait une fiction en fait.
C'est vrai, c'est. C'est une IA,
Voilà, c'est ça.
J'ai cru que c'était une IA à un moment. Je dis, mais attends, mais c'est quoi ce délire?
Ce qui est marrant, c'est quand il arrive, il dit à un moment, bon, t'auras un chauffeur, il viendra te chercher, il te ramènera. Et là, ta mère a fait, un chauffeur aussi?
Et lui, il dit quoi? Il dit, ah, le chauffeur, c'est pas pour tous les joueurs. Hein.
Ouais, t'as raison.
Il comprend à 12 ans, que c'est pas le même.
Il dit ça et après il dit, bon, moi je veux pas non plus me vanter.
Tu le vois dans son regard, même quand il y a le recruteur, que c'est pas, il a pas le même niveau que les autres quand même. Déjà à 12 ans quand même.
Tu l'entends, il le dit plus tard.
Tu le vois. Tu le vois.
Alors, il y a un moment, une date que j'ai notée, moi, c'est le 26 novembre 2003. C'est quoi ça? Tu sais ou pas?
26 novembre 2003?
T'es ramasseur de balles au Vélodrome.
Ouais, contre le
Olympique de Marseille, Real Madrid, Ligue des Champions, match retour, le Real des Galactiques, hein, Zidane, Beckham, Figo, R9 sont là. Toi, t'es gamin. Et là, c'est intéressant, c'est le centre de formation. T'as un grand espoir de l'OM et tu en parles devant eux comme un gamin qui rêve encore d'être professionnel.
Ah oui, mais c'est...
Et ça, c'est un déclencheur aussi. Tu dis, mais ça y est, on y est là.
Ouais, mais c'est... Pour moi, on y est parce que je suis sur le bord de la pelouse et je vois le match. Mais je suis tellement loin aussi de penser que dans un an, en fait, je suis sur le terrain en train de jouer devant 60 000. Et de voir Zizou, Figo, R9, là, on était avec Medji, le soir, on est rentré, on a débriefé le match, mais avec des étoiles plein les yeux. Oh, mais t'imagines, oh là là, mais t'as vu l'autre, comment il contrôle le ballon, comment il dribble et tout. Mais il y avait ce truc-là, c'était extraordinaire. Je sais pas, j'ai des frissons.
C'est dommage, on peut pas tout raconter, mais même l'histoire avec Menacia, c'est dingue.
Ouais.
Qu'en fait, t'as ta chambre, en gros, t'es le petit prince, t'as ta chambre.
Il te voit, il est tout seul dans la chambre quand même. Hein.
C'est vrai. Et ils te mettent, à la base, vous étiez quatre, et du coup,
oui, sinon, je fais ça pour moi.
Privilège.
Moi j'ai un chauffeur, je m'achète.
Mais et là ils te mettent un mec comme ça, le gars ça devient ton meilleur pote, c'est ouf quand même.
Ouais, c'est ouf parce que après on a fait tellement de choses ensemble, mais quand il est venu, voilà, ça. Je vois, ils sont sérieux, ils ont mis quelqu'un. Et d'un coup, ça a accroché. Et même quand j'ai eu des moments difficiles, c'est le seul qui a été là et tout.
On va écouter ça maintenant parce qu'il y a aussi, on parlera aussi des 4 saisons à Marseille, savoir comment tu les juges, toi. Il n'y a pas eu de titre, mais quand même beaucoup d'émotions au Vélodrome. Il y a une cassure sur ta dernière saison à l'OM, 18 septembre 2007, match de Ligue des Champions au Vélodrome. Tu racontes dans le documentaire, on écoute.
J'ai joué un match de Ligue des Champions sous méningite. Après le match, je fais 12 jours à l'hôpital.
Il faisait que vomir, le pauvre, c'était horrible. Mais j'ai cru qu'il allait mourir. C'est grave, la méningite.
Et personne n'est venu me voir à l'hôpital.
C'est dans les épreuves qu'on se rend compte qui est là, qui n'est pas là, sur qui on peut compter, etc. Ben là, il a su qu'il pouvait compter sur personne à part nous.
Moi, le football, dans ma tête, c'était mes 12 potes. Mais chacun passe à sa gueule, en fait.
Tu sais qui c'est qui est venu me voir?
Et que j'oublierai jamais de ma vie, c'est pour ça que c'est toujours mon ami, ce qu'il y a aujourd'hui. Mehdi Benassia. Il était à Lorient ou à Clermont. Il a appris que j'avais la méningite, il est descendu. Je me souviens comme c'était hier, il m'a ramené à McDonald's pour que je mange. Parce que j'arrivais pas à manger. Moi, si ça avait été l'inverse, je serais allé voir n'importe qui. Je suis quand même de loyal, moi, avec mes amis. Et je vais au bout du monde pour eux. Et j'ai mal pris. Je me suis dit que c'est pas le monde des bisounours, en fait. C'est là que j'ai changé de mentalité un peu.
C'est très fort comme témoignage dans ce documentaire sur Canal+. Samir, c'est pas une cassure, mais c'est en tout cas pour toi un moment de bascule. Tu comprends quel est ce milieu à ce moment-là, quoi.
Ouais, parce que j'étais encore insouciant à l'époque. Kevin peut aussi en témoigner. Il n'y avait pas autant d'engouement avec les réseaux, avec les parents qui pensent que leurs enfants vont être
le futur ticket d'euros
millions pour eux, qui va leur changer leur vie. Ce n'était pas comme ça. Et donc, pour moi, on était tous là, on était tous pop, même au centre de formation. Il y avait de la concurrence, mais ce n'était pas, exacerbé comme ça l'est aujourd'hui. Donc, pour moi, c'était, ouais, j'arrive, tout va bien. Et en plus, jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas connu de coup dur en fait, dans ma carrière, que ce soit un jeune... ou même mes débuts en pro, c'était idyllique en fait, tout s'était toujours très bien passé. Donc j'étais pas préparé à ce genre de choses. Et là, il y a comme joueur, c'est Mehdi Benassia et les gens du club qui ont toujours pris des nouvelles, qui ont appelé mes parents quotidiennement. C'est Pape Diouf, paix à son âme, et Louis Acariès qui s'occupait à l'époque de qui était dans le board et qui était là pour remettre un petit peu de l'ordre au club.
Pas de joueur.
Pas de joueur.
Pas de coéquipier.
Est-ce que ce que tu dis aussi, et là c'est ta sœur qu'on a entendu, tu disais que notre génération, même si moi j'ai pas joué à l'OM, mais je suis parti à l'étranger, moi ma mère en fait elle voulait pas que je devienne footballeur. Ouais. Quand je suis parti à l'étranger, elle a pleuré ma mère, le jour où je suis parti. Parce que eux, les parents, ils s'inquiètent. En tout cas, les parents de ma génération, j'ai l'impression qu'ils étaient plus inquiets, justement, de...
Et encore, t'es parti tard, toi. Hein,
moi, je suis parti tard.
Samir, à 12 ans, il était au centre de formation.
Oui, non, mais il y a beaucoup de gens qui... leurs parents, ils savent pas s'ils le mettent en centre de formation. Et ta mère, d'ailleurs, je crois qu'ils voulaient le prendre un an avant. Ouais. Et elle a pas voulu. Mais c'est ce qu'on voit aussi, tu vois, quand t'es... Mais d'ailleurs, j'ai une question. Du coup, il y a un de tes frères qui a été médecin ou sœur ou...
Non, parce ils ont fait des études, ils ont eu leur master, truc, aujourd'hui.
Mais pas de médecin.
Non, pas de médecin. Ah, okay. Non, mon frère, il a fait des études et lui, il y en a un qui est spécialisé dans l'histoire et l'autre, il est dans l'éducation nationale. Ils n'ont pas...
Parce qu'elle voulait vraiment un médecin. Donc.
Elle essaie avec mon fils. Là.
Okay. C'est
vrai. Elle essaie avec mon fils. Mon fils, il est comme moi. Il a dit non, moi, pas mamie, je vais être footballeur. Et après, quand je finis, ben là, je serai docteur pour faire plaisir.
Démarrer à 30 ans, à 35 ans, les médecines, c'est dur. Finir à 45 ans.
Parce qu'on ne va pas tout spoiler, mais la fin du documentaire, elle est quand même très émouvante.
On ne va pas le dire, ça, parce que c'est le moment aussi du documentaire. Ça raconte aussi ton évolution en tant qu'homme, Samir. Je reviens à Marseille. Tu arrives dans une équipe qui a de la gueule sur le papier quand même, de Mamad Niang, Franck Ribéry, Djibril Cissé. T'es bien accueilli ?
Très bien.
Très bien accueilli. On le voit dans les images.
Très, très
Franck bien. Franck Ribéry est nickel avec toi.
Ouais.
Tout le monde est nickel.
Top, top, top. On était inséparables. Franchement.
Inséparables dans la blague, dans la connerie aussi
dans tout. Dans tout. Franck, Mamad, Djibril, vraiment. En plus, on jouait tous les quatre... devant. Non, franchement, il y avait une vraie alchimie entre nous. Le seul regret, c'est que voilà, on perd contre Sochaux en finale de Coupe de France. On va dire que Lyon était intouchable à ce moment-là, mais au moins on peut prendre au moins deux Coupes de France, que ce soit le Paris et Sochaux.
C'est des très belles années, ça, pour toi, l'Olympique de Marseille.
Comment tu les qualifies?
C'est là où t'as le sourire, en tout cas.
Parce qu'il y a beaucoup de générations.
T'as souvent le sourire sur les vidéos.
T'as raison. Ouais. C'est vrai, ça.
C'est vrai, c'est vrai.
Alors qu'avant, après, j'ai l'impression que on voit, peut-être c'est moins d'inside, mais je me suis dit, ouais. Bon, forcément, t'es Marseillais, t'es à l'OM. Il y a des mecs qui sont.
Il y a une joie d'enfant.
Mais t'as cette insouciance, et peut-être après l'histoire de la méningite, etc. Mais,
après, c'est plus
mais ça se voit en tout cas dans le documentaire.
Dans le documentaire, c'est vrai.
Parce qu'il y a beaucoup.
C'est vraiment, ça reflète vraiment la réalité de comment tout s'est passé et le déroulement même après.
Parce qu'il y a beaucoup de supporters marseillais qui te disent qu'ils ont préféré cette génération-là qui n'a pas gagné de titre plutôt que même celle d'après avec Didier Deschamps.
2010, qui est champion.
Mais que cette génération-là là, les a vraiment marqués parce qu'il y a des joueurs iconique et qu'ils étaient vraiment attachés à votre bande. Toi, tu le ressens, toi, avec le recul, on te le dit souvent.
Je le ressens, franchement, je le ressens. Et en plus de ça, les mecs qui étaient là, c'est des mecs qui étaient vraiment attachés au club et au maillot. Djibril, c'est un joueur qui est de la région. Mamad, c'est devenu un Marseillais d'adoption. T'avais Loric Sana aussi derrière qui avait beaucoup les valeurs, qui représentait beaucoup les valeurs des supporters et compagnie. T'avais Abibay aussi qui était là derrière. C'était une équipe avec beaucoup de joueurs de caractère et sur le terrain, on essayait de donner le maximum.
Et Pape Diouf aussi.
Ouais, Pape Diouf en tant que président. C'était la grande classe. Moi, je l'ai eu comme agent et après, j'ai connu comme dirigeant. Et franchement, c'était la grande classe.
Il te manque un truc quand même sur les 4 saisons à Marseille ou pas? Un titre, évidemment. C'est ça.
Ouais, le titre de à Marseille, l'engouement, c'est exagéré. Mais j'aurais aimé, tu vois, gagner un trophée, aller sur le port, le fêter avec les supporters. Ça, ouais, c'est quelque chose que je regrette.
T'as ressenti la pression à Marseille parce que là, c'est le grand débat à la mode hein, sur les dernières années, c'est trop dur de sortir du centre de formation. Toi, j'ai le sentiment que t'avais une insouciance sur le terrain dès tes débuts et qu'à aucun moment tu l'as ressenti.
Non, j'ai jamais ressenti ça. Après, j'ai eu de la chance. Il faut être honnête, même si le talent était là, mais j'ai eu de la chance d'avoir comme premier entraîneur en pro José Anigo, que j'avais connu au centre de formation avec la CFA. Il m'a lancé en CFA, j'avais 14 ans, mon premier match en CFA, que j'ai connu à 9 ans lorsque j'ai signé à l'Olympique de Marseille, puisqu'il était entraîneur des Benjamins. Donc ça, c'est quelqu'un qui me connaît depuis que je suis enfant. Donc quand il était là, entraîneur des pros, avant de rentrer contre Sochaux, il ne me dit pas « bon, fais une bonne entrée tranquille ». Non, il me dit « prends le ballon, dribble tout le monde », parce qu'il m'a vu le faire quand j'étais jeune. Et donc, quand tu rentres et que tu as le soutien du coach, tu sais très bien que tu peux vraiment te lâcher. Est-ce qu'avec un autre entraîneur, j'aurais eu autant d'insouciance ? Je peux pas me prononcer, mais j'ai eu de la chance d'avoir José Anigo comme entraîneur.
On en a beaucoup débattu avec Kevin, notamment sur Ryan Cherki à l'Olympique Lyonnais. Nous, on le sent dans le documentaire que, bon, je sais pas si la pression, elle est véritablement sur toi, mais en tout cas, en dehors, quand Benatia en parle, notamment quand on dit, ouais, tu vas aller dans la chambre du crack, lui, c'est, on en a un tous les 25 ans, que t'as des privilèges. Est-ce que, si ça marche pas pour toi, à un moment à l'Olympique de Marseille, si ça prend pas, bon, il y en a qui diront, bon, lui, le petit prince, là, en fait, finalement, c'est une fraude. Tu vois, j'ai l'impression que finalement, toi, à aucun moment, tu l'as.
Le plus dur, c'est aussi les comparaisons avec Zidane, je pense.
Ouais, non, ça, c'est très dur. Mais ce qui m'a aidé aussi, c'est à l'époque, il n'était pas dirigeant, c'était mon agent, c'était Pape Diouf. Il m'avait expliqué un truc, mais vraiment tout bête, mais qui fait sens. Il m'a dit, tu es là. Les autres joueurs de ta génération, ils sont là. Si tu travailles autant, voire plus qu'eux, ça va rester comme ça.
Tu auras toujours une avance.
Tu auras toujours ton avance. Maintenant, si tu travailles moins, tu te reposes sur tes lauriers parce qu'on dit que tu es bon, parce que tu es international français, ce que tu veux, le joueur qui est là, il va travailler plus, il va venir ici. Et demain, un dirigeant, il va choisir celui qui est plus bosseur que celui qui est talentueux. Mmh. Et quand j'étais jeune, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Il a raison et j'ai travaillé. Donc pour moi, je ressentais pas cette pression. Je me suis dit, je travaille plus qu'eux, je suis meilleur qu'eux, mais je vais jouer ici.
Donc le talent oui, mais le travail, tu travailles beaucoup.
Mais c'est obligatoire. Il y a pas de talent sans travail. Non. Oui, ou alors c'est éphémère. Tu as un prime d'un an ou de deux ans, mais tu peux pas perdurer au très haut niveau si tu travailles pas.
Voilà pour Marseille. Dans un instant, on va parler de l'équipe de France avec Samir. On va parler aussi de la première ligue. Hein. C'était pas un championnat qui te faisait rêver. Ça aussi, je l'apprends dans le documentaire. C'est intéressant. Tu diras quel championnat te faisait rêver à ce moment-là. Et puis, deux, trois questions aussi sur ton avenir. Peut-être, pourquoi pas un jour au bord d'un terrain. Reste avec nous, Génération After RMC. Samir Nasri est avec nous. Kevin Diaz, Walida Chercheur aussi. 20h42, à tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Kevin Diaz, avec Walida Cherchour et notre invité ce soir sur RMC, Samir Nasri. Alors Samir, après Marseille, après tes débuts à l'OM, tiens, la Première Ligue, t'as fait 9 saisons en Angleterre. D'abord Arsenal, bien sûr. Pourtant, toi, l'appel, étudier un documentaire sur Canal, ça te faisait pas rêver forcément.
Pourquoi ? Non, à la base, parce que je pense, à la base, le football anglais n'est pas adapté à mes qualités. Je parle dans les années 90, c'était beaucoup de kick and rush, c'était du jeu direct. Et moi, mes qualités, c'est plus le jeu au sol et technique. Donc, j'ai toujours été attiré par le championnat espagnol. Et fin des années 90, la première ligue de l'époque, c'est le championnat italien. Les grands joueurs, ils jouent tous dans le championnat italien. Et après, avec l'arrivée d'Arsène Wenger et les Frenchies, que ce soit au départ le doublé avec Nicolas Anelka et compagnie, et après l'arrivée de Henri, Pires et Evira Arsenal, m'a fait changer un petit peu d'opinion sur le football anglais.
Et là, tu fais une rencontre, j'ai envie de dire, ta rencontre footballistique à Arsenal. Il est espagnol, il a 22 ans, il est capitaine de l'équipe, il s'appelle Cesc Fabregas. Kevin Ismar, déjà, parce qu'il kiffe évidemment le joueur. On a le sentiment là que c'est presque le coup de foudre technique, quoi.
En fait, on se connaissait parce que on gagne le championnat d'Europe des 17 ans contre l'Espagne et il y avait Cesc qui était là. Et en fait, on était tous dans le même hôtel. Et tous les jours, on jouait à la PlayStation ensemble. Parce qu'on avait un joueur de notre équipe, en équipe de France, qui était le fils de Jacques Songo, Franck Songo, qui était au Barça. Et donc, il allait tous les jours dans leur chambre et j'allais avec lui et on jouait à la PlayStation. Donc, on se connaissait un petit peu. Et quand je signe à Arsenal, de suite, les premiers entraînements, le mec, il est techniquement, il est au-dessus, c'est un passeur. Honnêtement, j'ai joué avec beaucoup de grands joueurs dans ma carrière. Pour moi, c'est le meilleur passeur avec qui j'ai joué, et de loin. Et donc, on avait une certaine attente, parce que Arsène Wenger, il aimait bien avoir deux meneurs de jeu dans son équipe. Un plus bas, c'était Cesc, et moi, un peu plus haut. Et donc, il y a eu cette, de suite, cette petite, ces petites connivences au niveau footballistique. Et moi, je me suis vraiment épanoui avec lui.
Et avec Arsène Wenger aussi, qui parle très bien de toi dans le documentaire.
Non, mais lui, voilà, lui, c'est la grande classe. Lui, il a joué le rôle de père. C'était important pour moi de ma première expérience à l'étranger dans un club, un top club qui joue la Ligue des Champions chaque saison, qui se qualifie toujours après les poules, mais d'avoir un entraîneur français qui puisse me comprendre. Et lui, il a tenu toutes les promesses qu'il m'avait faites lorsque j'étais à Marseille. Il m'a aidé dans ma vie personnelle, il m'a aidé à m'installer. Tous les jours, il me demandait de mes nouvelles. Il y a eu ce lien. Moi, je fonctionne beaucoup à l'affectif, et mes meilleures saisons, je les ai toujours fait avec un entraîneur avec qui je n'étais pas en conflit ou qui aimait le conflit. J'aimais bien avoir un entraîneur. Je suis bon, il me le dit, mais si je ne suis pas bon, il me le dit, qui est juste. Et j'ai adoré bosser avec Arsène Wenger.
Vous ne gagnez pas pendant 3 ans à Arsenal, et là tu pars à City. Et ton titre, tu vas le chercher en 2012 lors d'une dernière journée historique. C'est soit vous, soit United qui bat Sunderland 1-0. Vous êtes mené 2-1 par QPR, Queen's Park Rangers, avec un but de ton pote Djibril Cissé en plus.
Ouais.
Et en 2 minutes, dans le temps additionnel, vous renversez tout. Dzeko égalise, et évidemment, la suite, on la connaît.
Balotelli, Aguero.
T'as des frissons ou pas? T'as des frissons, tu regardes ton bras, Samir. C'est quand même l'un des commentaires les plus connus de l'histoire du foot.
Ouais.
C'est Aguero!
Non, mais même ce qu'il dit après, il dit je jure que vous ne verrez plus jamais ça de votre vie.
Et on l'a pas revu.
Non, ouais. Mais c'est complètement dingue.
On l'a pas revu.
Avec le téléphone Manchester United de l'autre côté contre Sunderland, c'est ça?
Ils sont déjà en train de fêter quasiment le titre.
C'est fou.
Là, t'as 24 ans, t'es champion d'Angleterre, qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous ce moment-là, parce que toi, tu n'y crois pas quand t'es mené 2-1.
Non, j'y crois plus du tout, parce que on avait, si on se souvient un petit peu de la chronologie de ce championnat, il y a à cette journée de la fin, on a 8 points de Manchester United. Par un concours de circonstances, on arrive à revenir à 3.2. 3 matchs avant ça, on les joue à domicile, on gagne 1-0 sur un but de Company sur une tête. Donc on est ex aequo, on a 2 matchs. Il nous reste 2 matchs, il nous reste Newcastle à l'extérieur. On se dit, c'est le match traquenard, si on le gagne, on est champion. On gagne 2-0, il y a Touré mais un doublé. Et on reçoit QPR qui a 70% de chances de descendre. Donc on se dit c'est tranquille, c'est la fête. Mais sauf que on a beaucoup de très très bons joueurs dans l'équipe, mais pas des joueurs habitués à gagner. Et donc le dernier tir pour transformer l'essai, c'est compliqué quand il y a cette pression là, il y a un engouement. Le Manchester City avait pas gagné de titre pendant 44 ans, donc c'est aussi c'est lourd, c'est difficile. Et on commence bien le match, on mène 1-0, Yaya se blesse, et la mécanique est un petit peu enrayée, et là on prend 2 buts coup sur coup, et dans ma tête j'étais en train de me dire non mais c'est pas possible, je suis maudit, je vais jamais rien gagner, c'est pas possible. Et là Dzeko marque le 2-2, et je te jure, il marque le 2-2, et je me dis, eh, comme par hasard on marque maintenant, et je vais avoir, on a perdu quand même. Et là il y a Agüero qui fait son truc, et quand il y a, même au moment de l'action, quand il le tacle, dans ma tête, je suis en train de me dire, mais il tombe, parce que c'est Taïwo en plus qui lui met le, qui fait faute sur lui. Et là il marque
Taïwo en plus, j'aime bien.
Mais ouais, non, parce que j'ai joué avec lui.
Tu connais, ouais.
Et pourquoi il tombe pas?
Parce qu'il sait que s'il tombe, c'est Balotelli qui va tirer le pénalty.
C'est vrai?
Ah oui!
C'est bon ça!
Attends, le héros, ouais. À jamais, c'est Balotelli, c'est plus Agüero. Et là, il a changé l'histoire, il est resté debout, il a mis au fond.
Ah, c'est bon ça qu'il a.
Je te le garantis.
T'as préféré le quotidien avec Balotelli ou avec Agüero à City?
Ah, c'est différent, tu t'amuses plus avec Mario. Tu t'amuses plus avec Mario.
Peut-être que tu gagnes plus avec Agüero, par
ça c'est sûr.
Raconte-nous Agüero, c'était comment de jouer avec lui, parce que bon là aussi on est sur une légende.
Agüero c'est une légende, mais je trouve que c'est une légende en Angleterre et compagnie, mais je pense que pour moi il est même un petit peu sous-coté par rapport aux joueurs que c'était. Franchement, il était explosif. Et sur le petit périmètre, il est capable d'éliminer dans une cabine téléphonique, et c'était clinique devant le but. Vraiment, c'était bon, très bon joueur, Et très bon mec, en plus de ça, très bon mec. Et grâce à lui, j'ai pu rencontrer mon idole. Il m'a ramené Maradona, donc franchement, Sergio Agüero, c'est 20 sur 20.
Il lui a manqué 2-3 images avec l'Argentine et en Ligue des Champions, peut-être.
Ouais, un petit peu.
Mais ce qui est fou, c'est que c'était exceptionnel.
Ce qui est fou, c'est qu'en fait, tu fais un choix qui est quand même très contesté, parce qu'à l'époque, Manchester City, c'est un peu comme le PSG quand le Qatar arrive, ou même là, quand les Saoudiens arrivent à Newcastle. En plus, t'as Manchester United, c'est marrant parce qu'en fait t'as un peu la même phrase que quand Van Persie quitte Arsenal. Il dit je pars parce que je veux gagner. Et toi tu le dis aussi, tu pars parce que tu veux gagner. Et ça se joue à pas grand chose, mais tu gagnes. Et derrière je pense que ils te demandent alors tous ceux qui t'ont critiqué.
Mercenaire.
Ouais, j'ai été traité de mercenaire par des consultants et surtout certains avec qui j'ai joué que j'avais appelé justement. Pourquoi tu dis ça? Attends. J'arrive pas à le comprendre. Et ça m'avait fait j'avais un petit peu vacillé au départ. Mon choix se portait sur Manchester United quand les deux clubs sont venus. J'avais rencontré Alex Ferguson à Paris. On s'était vu, on avait discuté. Son projet de jeu, ça m'intéressait énormément. Et après, Jean-Pierre Bernès et Alain Migliaccio, on devait prendre notre décision et on a discuté. Ils m'ont dit bon, écoute, United, l'année passée, ils font finale de Ligue des Champions et ils sont champions d'Angleterre. C'est un club mythique. Tu peux aller là-bas et tu seras passé à Manchester United.
Un parmi tant d'autres.
Par contre, de l'autre côté, l'équipe, elle vient de gagner la FA Cup l'année d'avant. C'est une équipe qui sont en train de construire. C'est un projet solide. Les mecs qui sont derrière, ils veulent vraiment faire quelque chose de sérieux. L'année d'avant que je signe, ils font venir dans le même mercato Jérôme Boateng, David Silva, Yaya Touré et Kolarov. Il y avait déjà Tevez, il y avait déjà Compagnie. Et là, sur le début de saison, ils prennent Agüero, Clichy, et ils essayent de me faire un petit. Franchement, je pense que c'est l'équipe de demain. Tu devrais prendre en considération. Et après réflexion, je me suis dit, et ils ont raison. Mais on va là-bas et on va essayer de gagner. Et bon, après, j'ai de la chance, on gagne la première année.
Et financièrement, il y avait un vrai gap entre les deux ?
Pas énormément.
Il y avait le salary cap, non, à Manchester United à l'époque ?
Non, mais il y avait un salary cap à Manchester United où c'était Alex Ferguson numéro 1 après le reste des joueurs. Et en fonction des années passées au club et des preuves que tu as fait, il y avait ce truc-là. Mais même Arsenal me donnait un très, très, très gros contrat à l'époque. Et ouais, c'était une différence de, je crois, peut-être 500 000 à l'année. Mais sur les sommes qu'on parle, ça, c'était rien du tout, quoi.
Et alors, Leonardo t'a appelé aussi.
Oui.
À ce moment-là. Pour te demander si tu voulais venir jouer au PSG.
Non, d'abord, il m'appelle parce qu'il est entraîneur de l'Inter de Milan.
Ah !
Il m'appelle parce qu'il est entraîneur de l'Inter de Milan, donc on discute sur l'Inter de Milan. L'Inter de Milan qui, 2 ans auparavant, fait le triplé avec Eto'o, Schneider et compagnie. Et il m'appelle pour l'Inter, et le courant passe super bien, on discute. Et d'un coup, il me rappelle une autre fois pour me dire « Arrête de discuter avec l'Inter. Fini. » Comment ça ? Il me dit... T'inquiète pas, il y a quelque chose qui se prépare, je vais t'appeler pour ça.
Ah, il est bon, Leonardo. Hein.
Et après, il m'appelle pour me dire qu'il devient directeur du foot au PSG. Et il me parle de Paris. Et je lui dis non, là, Léo, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Et Arsène qui me dit de son côté, mais va au PSG. Il veut pas que je parte en Angleterre, il veut pas au PSG. Je lui dis, mais c'est pas possible, coach. Non, je peux pas faire ça.
T'aurais pu être le pastoré, en fait.
Ouais.
Quand Pastore arrive, il...
Ah, c'est ça,
ouais.
C'est gros, ça. Non, mais là, c'était pas possible.
Non, ben, non, c'est pas possible.
Possible. Beaucoup l'ont fait,
ouais,
Kevin.
Là,
il se tue.
Ouais,
non.
T'aurais mal vécu que Zizou prenne le PSG il y a 3 ans, là ?
Non.
On en parlait ? Tu l'aurais compris ?
Ouais. C'est pas pareil.
Entraîneur, c'est pas pareil.
Il est Marseille, il n'y a pas de problème. Mais il n'a pas joué à l'OM. C'est entraîneur. Donc quoi, on va en vouloir aussi à Laurent Blanc parce qu'il a entraîné le PSG alors qu'il a joué à Marseille. Non, sur ça, non. Par exemple, Peter Luxin, quand il fait le chemin Marseille-Paris, je lui en veux. Il est de Marseille, il a joué à l'OM, il est parti. Mais Zidane, non. De toute façon, Zidane, il est intouchable pour faire ce qu'il veut. Tout le monde va lui pardonner au final. Hein.
Samir Nasri est avec vous. Tu restes encore quelques minutes avec nous, avec Kevin et avec Will. J'espère que tu passes un bon moment. C'est Génération After, c'est RMC. Ton documentaire sort dimanche soir à 21h, réalisé par Marc Sauvourel. Reste avec nous, la suite, on va parler des Bleus un petit peu, puis ton rôle de consultant aussi, et tiens, la liste de Deschamps, ce que tu penses des choix du sélectionneur. Reste avec nous, Génération After RMC, à tout de suite.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.